Bonsoir, bienvenue dans Pas son genre, émission militante, émission tract, m'a-t-on dit, émission engagée. Je préfère voir révoltée par moments, c'est vrai, et comment ne pas l'être. D'où l'envie ce soir de vous lire un extrait de Camus, l'homme révolté, et avec la femme, ça marche aussi. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là, oui, au-delà, non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. On retrouve la même idée de limite dans ce sentiment du révolté que l'autre exagère, qu'il étend son droit au-delà d'une frontière à partir de laquelle un autre droit lui fait face et le limite. Ainsi, le mouvement de révolte s'appuie en même temps sur le refus catégorique d'une intrusion jugée intolérable et sur la certitude confuse d'un bon droit, plus exactement l'impression chez le révolté qu'il est en droit de. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même, en quelque façon et quelque part, raison.
France Inter. Julia Foïs. Pas son genre.
Maître Claude Katz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat honoraire au barreau de Paris, pénaliste et spécialiste des violences faites aux femmes, et c'est vous qui avez choisi ce texte de Camus. Pourquoi ?
Parce que ce sentiment de révolte dont parle Camus est un sentiment à la fois universel, mais également un sentiment qui m'habite, qui m'a habité tout au long de ma carrière d'avocat, mais même après. Et avant aussi, on en reparlera peut-être. Et puis, je crois que le mouvement MeToo, évidemment, participe de cette volonté de révolte. Ça suffit. Nous ne pouvons plus continuer à accepter. Et c'est un mouvement extrêmement important, très courageux. Je relève d'ailleurs le silence des hommes en général au regard de ce mouvement.
Vous trouvez qu'il ne parle pas assez, qu'il ne s'exprime pas assez?
Il ne s'exprime pratiquement pas, sauf quand ils sont mis en cause.
On les entend beaucoup dire, par exemple, qu'il y a des excès à ce mouvement-là. On les entend beaucoup nous dire attention à ne pas rentrer dans une ère de la délation, etc. Ils prennent la parole quand même, pour le contester en général.
Oui, pour le contester. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être un sentiment de malaise au regard de notre éducation, avec tous les principes de masculinité, de virilité qu'on nous a inculqués. Le sentiment de révolte, pour en revenir à votre question, moi, c'est quelque chose qui m'a habité, j'allais dire, depuis pratiquement l'âge de 18-20 ans, c'est-à-dire au moment de mai 68.
Vous nous raconterez effectivement, mais si je vous tends d'abord ce miroir et si vous vous regardez, Maître Claude Katz, prenez-le.
Oui.
Quand vous vous regardez, est-ce que vous le voyez encore, là, cet homme révolté?
J'allais dire beaucoup moins, parce que l'âge aidant, effectivement, à ce moment-là, les révoltes se font peut-être moins nombreuses, moins visibles, mais elles existent toujours.
Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous, si vous regardez?
Mauvais genre, c'est le fait de ne pas penser comme le commun sur un certain nombre de sujets. Peut-être mauvais genre aussi, parce qu'on s'est interrogé, mais enfin, pourquoi moi, de sexe masculin, je me suis spécialisé dans la question de la défense des droits des femmes, dans la question des violences faites aux femmes.
C'était mal vu, ça, au début, quand vous avez commencé?
Oui, plutôt, c'était mal vu, c'était inconnu et surprenant pour pas mal de personnes.
Et pourtant,
aujourd'hui encore, il y a peu de personnes qui travaillent sur ces sujets de sexe masculin.
Ça veut dire qu'on considère toujours que les violences faites aux femmes, c'est des histoires de bonnes femmes?
Oui.
On va se promener ce soir avec vous dans les méandres du genre Claude Katz, qu'il soit bon ou mauvais, féminin ou masculin, on vous emboîtera le pas, on refera ce chemin qui, passant par le campus d'Assas en 68 à Santiago du Chili, juste après le coup d'État, a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui, homme révolté, homme éveillé.
Si je ne te regarde plus, tu disparais, si tu fermes les yeux. Je m'évanouis, il faut... faut se tenir éveillé. Jour et nuit, si tu t'endors, je te réveillerai si tes yeux me quittent à l'instant. Je disparais si je me retourne soudain. Tu n'existes plus, nous n'avons pas le droit de nous. Et même si tout concourt autour à nous distraire, si sentir d'autres regards peut nous éloigner, il n'est pas question que l'amour vienne à manquer si tu restes éveillé. Je peux le faire, ne plus rien voir autour. Tu peux rester l'unique objet de mon regard. Et en retour, tu ne peux que me regarder. Nuit et jour, si tu faiblis, je risque de partir en fumée. Si je ne te regarde plus, tu disparais. Si tu fermes les yeux, je m'évanouis. Il faut se tenir éveillé.
Les éveillés sur France Inter, c'est vous qui nous ouvrez les yeux ce soir, Maître Katz, sur ce monde qui est le nôtre, ce monde qui bouge et qui tangue, bouleversé peut-être pour toujours, qui sait, par une vague nommée MeToo. Mais pour mesurer les kilomètres accomplis en quelques mois, on va remonter jusqu'à vous, jusqu'aux toutes premières traces de la révolte.
Passons genre.
Michel Drucker, une petite surprise en tennis, c'est Roy Emerson qui l'a provoqué.
Oui, exactement François, aux championnats internationaux de Suède qui se déroulent à Bostad, en effet, une surprise en simple messieurs.
Michel Drucker avec Sport Dimanche, c'est la toute première émission de sport à la télévision française, on est au milieu des années 60. Vous, Maître Katz, vous êtes adolescent et quand vous entendez ça, vous êtes embarqué, vous vouliez être journaliste sportif.
Oui, à 16 ans, j'avais fait à Radio Luxembourg... il y avait eu effectivement une audition d'un certain nombre de personnes. Ils me proposaient de me garder. Ma mère m'a dit non, il faut que tu passes ton bac. Mais j'étais, je souhaitais effectivement être journaliste sportif.
Qu'est-ce qui vous plaisait dans ce métier-là ?
Le commentaire sportif et évidemment des choses de l'ordre de mon fonctionnement, de l'intime. Par rapport à mon histoire, sur lequel, bon, je ne veux pas m'appesantir, mais après, en y réfléchissant longuement, j'ai compris effectivement pourquoi le sport m'intéressait, pourquoi je me suis assimilé à un certain nombre de sportifs gagnants, bon, dans une période, ça a commencé une période d'adolescence qui n'était pas très facile.
Et le sport, c'était une réponse à ça ? C'était une façon de se dépasser soi, de dépasser l'adversité,
oui,
c'était ça ?
C'était une façon de se dépasser, c'était une façon de m'affirmer, de m'identifier à ces sportifs à un moment où je me cherchais, à un moment où dans les études, c'était pas facile, dans la vie personnelle, c'était pas facile non plus.
C'était quoi l'ambiance à la maison ? Qui étaient vos parents ? Ils faisaient quoi ?
Mes parents étaient des commerçants négociant en ameublement. Mmh. Et puisque vous me parlez de mes parents, moi je veux parler quand même, et ça participe de ce sentiment de révolte. Je veux parler de l'histoire qu'ont connue mes parents, parce que effectivement, d'origine juive, en 1940, ils ont été persécutés, ils ont dû se réfugier ultérieurement. Certains membres de ma famille ont été déportés. Et je suis, j'allais dire, un enfant de l'après-Shoah. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, j'ai découvert effectivement l'ampleur de ce génocide, l'ampleur de cette catastrophe. On n'en parlait pas à la maison, hein. On n'en parlait pas.
Jamais.
Moi, je m'y suis intéressé et je me suis dit que ce monde me révoltait, je reviens à ce que vous indiquiez, et qu'il fallait participer à la construction, alors là, en tant qu'avocat, d'un monde plus juste et d'un monde de droit, avec des règles de droit, notamment au plan international, qui permettraient de faire en sorte que ce qui s'était passé, c'est-à-dire ce génocide des Juifs, l'extermination de 6 millions de Juifs, ne pourrait pas se reproduire. Et il y a eu la Convention sur le génocide en 1948. Et vous voyez, aujourd'hui, j'écris sur le génocide politique qui n'est pas reconnu par la Convention parce que tout au long de mon histoire, cette question du génocide et cette question de la souffrance m'a profondément marqué.
Et c'est peut-être ici, le 20 novembre 1945, à Nuremberg, qu'on trouve les racines de votre vocation.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. Mais le président a posé une première question. Les accusés plaideront-ils coupables ou non coupables? Là-dessus, ils sont tous d'accord, non coupables. Mais ces hommes qui ont été au sommet de la puissance, qui ont cru tenir le monde dans leurs mains, ces hommes aujourd'hui vaincus, saisis et accusés, ces hommes savent bien que le monde ne leur pardonne pas et que l'heure de payer est venue.
Claude Katz, qu'est-ce que vous vous dites quand vous entendez cette archive des actualités françaises ?
C'est très important, c'est une forme d'insurrection des consciences. Insurrection des consciences parce que, on disait plus jamais ça, parce que, comme disait Winston Churchill, c'était un crime sans nom, ce génocide, et parce que Nuremberg a été la première expérience d'un tribunal militaire, jugeant des responsables d'État. Auparavant, les responsables d'État ne pouvaient pas être jugés, donc, mais l'accord de Londres qui a été signé à l'origine du tribunal militaire international de Nuremberg, prévoyait de déférer les responsables d'État. Et en matière de génocide, c'est très souvent, effectivement, les gouvernants qui sont à l'origine de l'extermination, parfois même de leurs propres citoyens, parce qu'opposants politiques. Donc Nuremberg a marqué, là, une étape absolument décisive, et vous avez eu donc cette convention sur le génocide, mais vous avez eu également l'éclosion du droit international et de règles. Et pour moi, les règles de droit international public, c'était une façon effectivement de pouvoir enfin avoir des droits, quelles que soient nos origines, et de pouvoir faire avancer la société internationale, dans ce respect des droits humains. On appelait ça droit de l'homme, mais c'est droit humain.
Toujours. Pour autant, est-ce que ça, on en parlait chez vous? On ne parlait pas de la Shoah, mais est-ce qu'on parlait de droit? Est-ce qu'on parlait de politique? Est-ce que c'était une ambiance familiale propice à l'éclosion?
Absolument
d'un engagement,
pas.
D'un combat? Pas du tout, jamais.
Pas du tout. Et moi, je me suis ouvert Alors, ça m'intéressait un peu la politique auparavant, mais je me suis ouvert véritablement à la question politique à l'occasion de mai 68.
C'est ça. Alors, vous arrivez à Assas, vous entrez à la fac de droit.
Oui.
Avec quelle idée en tête, vous voulez devenir quoi? Vous rentrez à Assas, pourquoi?
Je pensais être avocat. Et donc, j'arrive à Assas, et dans un grand amphithéâtre, donc c'était à partir de mai 68, moi j'étais en première année de droit, nous étions 2000, et il y avait à ce moment-là une effervescence extraordinaire au niveau de la réflexion, de la pensée, bien qu'Assas soit considéré comme une faculté plutôt réactionnaire de droite.
Oui, toujours.
Mais on avait quand même renvoyé les frères Mazot, qui étaient des pontes en matière de droit, professeurs, de la faculté. Et puis, on a travaillé sur la réforme des études. Et à Assas, attention, on ne disait pas « on va envoyer des pavés sur la gueule des flics », mais balancer des morceaux de revêtement sur ces messieurs des forces de l'ordre. Vous voyez, il y avait toujours un respect, effectivement.
La révolte, mais la révolte avec des pincettes, c'est ça?
Oui.
Dans la rue, pendant ce temps, cette révolte-là, elle gronde et puis elle éclate dans la rue, dans les usines, dans les amphis, partout. Maître Katz, vous étiez dans ces cortèges, vous avez chanté ces chants-là?
Oui, j'étais dans ces cortèges, je chantais ces chants-là, avec une certaine ingénuité, parce que je n'avais pas encore formé une vraie conscience politique.
C'est vrai?
Elle viendra après, plus tard.
On en parlera, oui. Mais là, à l'époque...
C'était de la révolte.
C'est ça. Vous êtes porté par une euphorie, par une utopie, par... On a aujourd'hui, sur cette époque-là, un regard parfois extrêmement critique. Et certains disent, voilà, on a laissé trop faire, on a laissé tout faire. Vous êtes d'accord avec cette critique-là sur le mouvement de mai 68?
Non. Nous étions face à une société très engoncée. Quand Pompidou, effectivement, disait que... À propos de l'affaire Touvier, les Français, c'était une époque où les Français ne s'aimaient pas, mais c'est manifestement donc une salification de l'histoire. C'est pas que les Français ne s'aimaient pas, c'est qu'il y avait des Français qui n'aimaient pas les Juifs. Bon, et donc, on va maintenant se battre contre cette société corsetée qu'avait commencé à faire exploser, je prends l'expression à dessein, la loi, effectivement, sur l'avortement, la loi sur la contraception, donc qui suivront effectivement ça, les mouvements des droits des femmes émergeront à cette époque.
Vous y êtes sensible à cette époque-là?
Non, pas encore.
Du tout?
Pas encore.
Ça vous effleure pas?
Pas du tout, mais non, pas encore.
Est-ce que vous comprenez ce qu'elles demandent, ce qu'elles veulent?
Oui, parfaitement. Et il faut bien, aujourd'hui, quand on critique mai 68, il faut bien comprendre donc par rapport à quoi on était confronté, quel type de société et ce que ça a permis de faire éclore.
C'est-à-dire
entre 70, 80, y compris les radios libres plus tard.
C'est-à-dire qu'on étouffait avant mai 68? On était asphyxiés?
J'étais encore trop jeune pour le comprendre, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là pour que cette révolte m'apparaisse tout à fait justifiée. Et au fur et à mesure, je me suis construit une conscience politique.
Alors vous retournez en cours, vous n'êtes pas que sur les barricades, hein, vous faites 4 ans de droit à l'Institut des Hautes Études Internationales. Dans le viseur, il y a la grègue, mais dans le cœur, l'appel du large. On est au tout début des années 70, c'est comme vous, c'est toute une génération qui rêve d'embrasser le monde autant que de le changer. Alors vous partez.
Sur la route avec Janis Joplin et avec vous, Maître Katz, vous êtes notre guide ce soir sur France Inter pour un périple qui raconte autant notre histoire que la vôtre, l'histoire de vos engagements, l'histoire de tous ces mouvements qui nous secouent depuis quelques décennies maintenant. Au début des années 70, donc votre diplôme de droit en poche, vous quittez Paris en voiture, direction Kaboul en passant par l'Iran, l'Inde, le Pakistan, le Népal, et puis ce sera Bangkok, et puis Java, et puis Bali. Qu'est-ce que vous apprenez de ces voyages ?
Une envie de découvrir l'autre, de découvrir des mondes qui me faisaient rêver, des mondes inconnus, parce que Bali, personne connaissait, hein, on va pas en avion, on n'allait pas en avion à Bali, hein, il fallait traverser par bateau, etc. Des civilisations qui m'étaient étrangères, à cette époque-là, je partais 3-4 mois en Asie. Ça a été effectivement en Inde également. Et puis m'est venu en 72 le goût de me dire j'ai envie d'aller en Amérique latine et de connaître l'Amérique latine.
Vous prolongez le plaisir du voyage, hein, vous vous donnez un an encore avant de retrouver Paris où vous mettrez à travailler, vous le jurez, vous passerez la grecque. Mais là, effectivement, on est en 72-73, vous êtes furieusement attiré par l'Amérique latine, par le Chili, plus précisément, avec un certain sens du timing.
France Inter, passons genre.
On se bat ce soir dans Santiago où l'armée tente de prendre le pouvoir. Il y aurait des centaines de blessés par balle dans la capitale chilienne. L'état de siège a été proclamé cet après-midi sur l'ensemble du territoire chilien par une junte militaire ayant à sa tête les chefs d'état-major des armées de l'air, de terre, de mer, appuyés par le chef de la police nationale, le général Mendoza. Dans la journée, des hélicoptères et des avions de chasse de cette junte ont survolé Santiago en rase-motte pendant que la radio militaire captée en Argentine annonçait la destitution du président Allende. Selon les dernières nouvelles émanant...
Nous sommes le 11 septembre 1973. Où est-ce que vous êtes, vous, à ce moment-là, à cet instant précis ?
À cet instant précis, je viens de passer la frontière. J'étais le 10 septembre à Arica. Le 11 septembre, à 5 heures du matin, je prends un car pour descendre. Ça fait environ 2000 km jusqu'à Santiago du Chili. Et vers 6 heures du matin... J'entends effectivement qu'à Valparaiso, il y a une révolte et qu'une junte militaire est en train de prendre le pouvoir. Et le but était partagé d'ailleurs entre les gens qui étaient favorables à Allende et ceux qui explosaient de joie parce que la Moneda était bombardée.
Et vous, dans ce bus? Vous vous dites quoi? Parce que vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays. C'est pas un pays dont vous parlez forcément la langue. Et en même temps, les événements se bousculent. On a peur dans ces cas-là ou on a une espèce d'excitation?
Disons-le, une certaine inconscience. Mais
vous aviez 24 ans, on le rappelle.
J'avais 25 ans, oui. Mais ce qui est important, c'est que moi, je voulais connaître le Chili d'Allende. Et le Chili socialiste. J'étais à cette époque-là au PSU. Et j'ai eu des adresses par certains membres du PSU, de militants, de groupes de militants. Donc je voulais aller là-bas. J'étais parti d'ailleurs avec un journaliste de Libération, mais qui n'a pas eu assez d'argent pour pouvoir rentrer au Chili, parce qu'il fallait à cette époque-là avoir suffisamment de dollars. Tant pis pour lui, c'est dommage pour un journaliste. Et moi, je me suis dit, mais je vais arriver à Santiago, je reste parce que ce qui se passe est un événement, et on verra, un événement mondial, un événement d'une extrême importance, car c'était Allende, c'était la première expérience socialiste dans la légalité de la conquête du pouvoir, dans la légalité des élections. Donc
vous décidez de rester, mais pourquoi faire très concrètement?
Alors pourquoi faire? Parce que comme j'avais un somme d'adresses, je me suis dit je peux être utile pour protéger un certain nombre de militants très engagés, poursuivis par la police, les faire rentrer en l'ambassade de France, puisque l'ambassade de France donc accueillait un certain nombre de réfugiés. Envoyer des informations depuis Santiago du Chili à la France sur ce qui se passait. Et j'avais une couverture parce que je faisais des études sur le droit de la mer, droit international de la mer. Donc j'étais à une université et puis j'ai été arrêté. Mais quand on m'a arrêté, on a vu que j'étais arrivé le 10 septembre. Donc aucune suspicion de collaboration avec Allende.
Quand est-ce que vous repartez et pourquoi ?
Je reste 6 mois. On me dit que ça devient un peu dangereux. Donc, je pars je descends la cordillère des Andes. Je vais jusqu'à Ushuaia. Je remonte de l'autre côté, l'Argentine, le Brésil. Il se trouve qu'il y avait des militants brésiliens réfugiés, qui m'ont accueilli. Comme ça, j'ai pu partager le carnaval de Rio avec eux. Puis je suis revenu. Et à mon retour, je rencontre Jean Edernalier qui me dit « Voilà, je ne peux pas écrire un livre sur le Chili. Je ne peux pas revenir au Chili parce qu'il avait eu des histoires pas très claires, en tous les cas, au niveau financement, peu importe. » Est-ce que tu peux l'écrire ? Donc, je suis revenu au Chili. De toute façon, j'avais l'intention de revenir. J'ai écrit ce livre. J'ai continué à faire ce travail donc d'information, ce travail aussi de protection. Et puis, à un moment, ça devenait vraiment trop dangereux. Donc, j'ai quitté le Chili et je me suis baladé en Amérique latine, dans la cordillère des Andes. J'ai descendu le fleuve Amazone, l'Amazonie. Et je suis revenu, après 13 mois, avoir bourlingué au Chili.
Donc là, vous revenez en France, on est en août 1974. Vous étiez juré de reprendre vos études et de passer la grègue. Qu'est-ce que vous
pas
faites?
La grègue, oui, pardonnez-moi. Oui, j'avais envisagé éventuellement la grègue, vous avez raison. c'était avec Jean-Pierre Cotte. Et finalement, je me dis, mais non, je veux rentrer dans la vie active. Avec ce que j'avais vécu, j'avais envie de rentrer dans la vie active. Donc, de passer mon diplôme d'avocat, un an d'études, et ensuite, immédiatement, effectivement, de pouvoir exercer.
Alors, vous exercez au départ dans le cabinet d'un avocat qui vous confie des affaires de droit social. Ça, c'est le début. Et puis, le tournant, je veux dire, le moment où vous mettez le pied sur l'épineux terrain des violences faites aux femmes, c'est en 90. C'est une affaire qui est assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, la première affaire que j'ai eue, donc en 90, c'était une affaire qui concernait un patron qui exerçait une forme de terreur sur une employée pour l'obliger, avec son chien, donc, à avoir une relation sexuelle. Inimaginable. J'ai eu récemment encore le juge qui a statué sur cette affaire et qui a condamné, évidemment, oui, l'employeur. Il s'en souviendra de cette affaire. C'était donc une des premières affaires. Je n'ai pas souvenir de personne qui était spécialisée dans ce genre d'affaires. Et puis, émerge
ça
la
n'existait
législation.
Pas même, la notion de harcèlement sexuel, ça n'existait pas. On ne sait même pas de quoi
non,
on parle à ce moment-là.
Ça n'existait pas.
Ouais.
Et arrive donc la première loi sur le harcèlement sexuel en 1992, au niveau du droit du travail, suivra une législation au niveau pénal. Et là, les affaires commencent à arriver de plus en plus nombreuses.
Mais parce que vous êtes contacté par les associations, donc il y a la VFT, l'association des violences faites aux femmes au travail, et oui, puis le collectif féministe contre le viol. Vous commencez à assister des victimes, je dis bien assister, parce que pour vous c'est important ce mot. On ne dit pas défendre une victime, on dit assister.
Oui, assister les victimes, ça veut dire...
se mettre au service d'eux.
Avoir une empathie pour ses victimes, et mettre le droit au service donc de ces personnes dont les droits précisément ont été bafoués. Mmh. Et notamment en droit du travail, c'est très important parce que ces personnes sont dans un rapport d'inégalité, puisque dans un rapport de subordination entre l'employeur et le salarié. Et la question, évidemment, du consentement, elle est à un certain niveau difficilement compréhensible. Le consentement ne peut pas être libre comme il devrait l'être. C'est un peu où tu couches ou je te licencie.
Alors... Le « où tu couches ou je te licencie », ça c'est effectivement c'est le patron harceleur, c'est le supérieur hiérarchique, c'est l'agresseur, c'est l'homme accusé de viol. Vous avez assisté des victimes, vous n'avez jamais pris la défense d'homme accusé de viol, d'agression, de harcèlement, jamais.
Non, jamais, parce que ma crédibilité était en cause. Oui. Parce que devant les juridictions, j'avais un mode de défense qui était tel que je ne me voyais pas pouvoir défendre, passer brusquement de l'autre côté et défendre des personnes accusées de viol ou d'agression sexuelle.
Donc ça veut dire que quand on est avocat, on choisit ses dossiers ?
Oui, en général, en tous les cas, moi je choisissais mes dossiers. J'étais en relation avec toute une série d'associations qui m'ont fait confiance, ça a été très important, des associations donc, de femmes qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné au fur et à mesure à traiter des dossiers d'harcèlement sexuel, mais aussi d'agression sexuelle et de viol.
On le disait en début d'émission, c'est assez rare, et à l'époque ça l'est encore plus, un homme, un avocat qui s'occupe de ces affaires-là et qui assiste les victimes. Est-ce que ça veut dire aussi que défendre un homme accusé de viol, c'est plus prestigieux ? Pour un avocat, ça claque plus ?
Pour certains peut-être, mais moi, je ne me suis jamais placé de ce point de vue. Pour moi, il y avait là encore une inéquité absolument insupportable dans le fait que, dans le harcèlement sexuel au travail, bon, il y avait ces personnes qui... perdaient à la fois leur dignité et lorsqu'elles refusaient, perdaient leur emploi. Bon, donc, profonde injustice. Donc, avec la nouvelle loi, on a pu avancer et faire en sorte que le droit émerge, y compris à l'intérieur des entreprises, puisqu'il y a eu ensuite des règlements d'entreprise interdisant le harcèlement sexuel. Donc le droit a émergé, la protection des personnes également. Ça ne veut pas dire que le problème était résolu, loin de là. Mais c'était un progrès encore de notre société.
On fait un saut dans le temps, on arrive en 2002, Gilbert Torjman, sexologue ultra-médiatique, est accusé de viol. 4 ans plus tard, il est renvoyé aux assises. Vous êtes de la partie civile, évidemment, Maître Katz. Et ça, c'est un sujet du JT de France 2.
Le langage du corps s'apprend dès notre enfance.
Dans les années 80, il court les plateaux de télé. Gilbert Torjman est une figure des médias. C'est le spécialiste de la sexologie en France. Mais en 2002, le praticien est mis en examen pour viol et attouchement sexuel sur 15 de ses patientes. Aujourd'hui, la justice a décidé de le renvoyer devant la cour d'assises, une victoire pour les plaignantes.
Il ne faut pas oublier que dans cette affaire, vous avez 44 personnes qui ont dénoncé des faits d'agression ou de viol de la part de Gilbert Torjman. Mais pour une grande partie, les faits sont prescrits. Donc c'est aussi en leur nom que je suis aujourd'hui satisfait.
La chambre de l'instruction a retenu des circonstances aggravantes, vulnérabilité et abus d'autorité.
Le procès, pour finir, n'aura pas lieu. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, Maître Katz ?
Parce que Gilbert Torjman est décédé un mois après son renvoi par la chambre de l'instruction. Ça a duré 7 ans, malheureusement.
C'est terrible, ça, quand on travaille sur un dossier pendant 7 ans et que le procès n'a pas lieu. C'est terrible pour vous.
C'est très dur.
Pour les victimes, c'est
Et pour
un
les victimes
cataclysme.
Également. Encore qu'elles ont pu être indemnisées, c'est une très maigre consolation. Parce qu'effectivement, la culpabilité de Torjman avait été reconnue au niveau de la chambre de l'instruction. Mais ce sur quoi je veux insister par rapport à l'extrait tout à fait intéressant qu'on vient d'entendre...
Et dans lequel on reconnaît votre voix, évidemment.
Oui, c'est tout ce qui m'a guidé en matière de défense du harcèlement sexuel, comme des viols, c'est de poser la crédibilité de la parole de la victime. C'est pas parole contre parole...
C'est ce qu'on nous dit pourtant. On nous dit toujours, ce qui est compliqué dans les affaires de viol ou de harcèlement ou d'agression, c'est que c'est parole contre parole, il n'y a pas de preuve, donc on ne sait
pas
qui croit.
Alors, je pose la parole effectivement des victimes et je tente de la crédibiliser. Le fait que vous ayez eu 44 personnes qui soient venues, dont un certain nombre, de toute façon, n'avaient plus aucun intérêt puisque les faits étaient prescrits, confortait et crédibilisait la parole de la victime. Et moi, à ce niveau-là, notamment en matière de faits de harcèlement sexuel, je viens dire, mais comment vous pouvez, vous, aujourd'hui, effectivement, prétendre que la parole de la plaignante, effectivement, est invalidée ?
Vous voulez dire que vous inversez la charge de la preuve, c'est-à-dire c'est à l'accusé de prouver qu'elle voulait ? C'est à l'accusé de prouver qu'elle était consentante ? Vous lui dites, en somme, qu'est-ce qui vous fait dire ?
Je viens dire surtout, qu'est-ce qui vous permet de prétendre que ma cliente a menti ? Et je retrace la carrière professionnelle de la salariée, et je viens dire, y a-t-il des éléments pour aujourd'hui venir dire, parce qu'il faut s'extraire de ce schéma parole contre parole. Non, et je retrace le parcours professionnel.
Pourquoi est-ce qu'il faut s'en extraire ? Pourquoi ça ne marche pas, parole contre parole ?
Ben, parce que, évidemment, si on s'en tient à la parole de l'accusé contre la parole de la victime, il n'y a pas d'éléments. Bon, les éléments, quand j'interpelle effectivement la personne mise en cause, je vais lui dire pourquoi donc ma cliente aurait menti. Elle vous décrit, je demande la description précise des faits que la salariée ou la victime de viol donc vient mettre sur papier, ce qui lui permet de prendre une certaine distance. Je viens dire, alors... Chacun des faits, pensez-vous que c'est inventé, que cela n'est pas vrai ? Et pour quel motif aurait-elle effectivement inventé ? Et au surplus, le parcours de la personne mise en cause au sein de l'entreprise, les solidarités qui peuvent s'exercer de la part d'autres salariés, mais également de l'inspection du travail, mais de la médecine du travail, la dégradation de l'état de santé de la salariée, ce sont des éléments qui, pour moi, sont importants pour crédibiliser cette parole de la victime.
Vous dites, c'est en fait, il y a la parole, mais il y a des faits, quoi.
Oui.
Voilà. En 2014, vous revoilà aux assises pour le procès, cette fois, du docteur André Azoud, spécialiste de la fertilité. Il était accusé de viol par 35 de ses patientes au total, dont l'une de vos clientes.
Dernière entrevue avant le procès pour Alice et son avocat. Bonjour madame.
Elle a souhaité garder l'anonymat. Cette femme a aujourd'hui 50 ans. Elle a porté plainte en 2007 contre son gynécologue, le docteur André Azout. Après 4 séances de traitement contre l'infertilité, le médecin en qui elle vouait une confiance aveugle va la violer, dit-elle, alors qu'elle est installée nue sur la table d'examen.
Je suis sortie en tremblant de son cabinet. Je m'accrochais à la barre du métro quand je suis rentrée chez moi. Je me suis précipitée sous la douche. Je me suis sentie horriblement souillée, bien sûr. Mais je n'ai pas pu dire non.
Je n'ai pas pu dire non. Elle est terrible cette phrase parce que c'est toute la difficulté.
Oui.
La question du consentement.
Elle n'a pas pu dire non, mais il faut savoir que Azout était un excellent gynécologue, que bien souvent c'était le dernier recours parce que toutes ces femmes avaient fait d'autres gynécologues et qu'il obtenait d'excellents résultats. Et cette femme, effectivement, était sous emprise.
C'est en fait tous ces faits que vous rapportez là, c'est pour démontrer bien avant que ce mot existe qu'il y a emprise. Et que
oui.
S'il y a emprise, alors le consentement oui. N'est ni libre ni éclairé en
et
fait.
Et alors là, je trouve qu'il y a une faille dans la législation parce qu'on ne s'est pas interrogé sur... Le fait, effectivement, que si les faits sont dénoncés tardivement, c'est parce qu'il y avait emprise du contrat de travail, emprise de cette volonté d'avoir enfin cet enfant tant désiré, qui faisait que, mais elle, cette personne, a dit « je savais qu'il y avait un risque, mais pour autant, mon désir d'enfant était le plus important ». Et il le savait, Azout, comme Torjman savait effectivement qu'il était dans un rapport de force.
C'est-à-dire qu'ils les mettent dans des positions où elles ne peuvent pas dire non, en fait. Et donc ce non n'a pas lieu tout simplement parce qu'il est
absolument
impossible. C'est ça ?
Oui. Et aujourd'hui, si on ne prend pas en compte la notion d'emprise en matière de prescription notamment, hein, donc impossibilité de dénoncer des faits dans un délai de 3 ans ou 10 ans, voire 20 ans, ça dépend effectivement de la nature des faits reprochés, eh bien, on ne prend pas en compte cette dimension de l'emprise qui est essentielle.
Alors justement, cette question de la prescription, vous le savez, autour de nous, il y a ce débat aujourd'hui sur l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels et notamment à l'encontre des enfants. Vous y seriez favorable, vous ?
Écoutez, ça pose un problème. Aujourd'hui, c'est 30 ans plus l'âge de la majorité, 18 ans, ça fait 48 ans. Ça pose un double problème auquel il faut réfléchir. Je n'ai pas de position bien tranchée là-dessus. Je veux simplement dire, en tant qu'avocat, que lorsque on peut déclencher une procédure après des dizaines d'années plus tard, la victime risque d'être déçue du résultat. C'est-à-dire, un, les éléments de preuve ont disparu. On aura peu de en raison du temps passé. Et deux, la personne risque éventuellement aussi une réparation, une indemnisation, à mon avis, très symbolique. Hein. Donc, et elle sera forcément extrêmement déçue de ce qu'il en est. Donc, cette question de prescription sur les faits, je rappelle que l'imprescriptibilité, ça a été, alors là, je fais un petit retour à l'histoire, c'est le tribunal militaire de Nuremberg, effectivement, et les lois de Nuremberg, à l'origine de ce tribunal, hein, pas les lois de 33, qui ont posé le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Et donc, l'imprescriptibilité, c'est une notion très rare. Aujourd'hui, l'appliquer,
oui,
je
mais
ne suis pas certain du côté de la victime qu'elle serait obligatoirement satisfaite parce que déperdition de preuves, indemnisation symbolique.
Oui, mais les associations, celles qui sont en faveur de l'imprescriptibilité, vous répètent après tout que symboliquement, c'est important de reconnaître les violences sexuelles comme un crime de guerre, justement.
Oui, là-dessus, moi, je ferais quand même une différence. Le viol est extrêmement grave. D'ailleurs, vous savez qu'il y a comme méthode, effectivement, d'un certain nombre de génocidaires. Au niveau du crime de guerre, on considère le viol comme un
c'est
génocide.
C'est une arme de guerre. Hein, c'est une arme de guerre, en tout cas.
Oui, oui, c'est une arme de guerre.
Oui. Azout a pris 8 ans ferme. Il est sorti au bout de 3 ans parce qu'il était âgé.
Oui.
Voilà. Les affaires, évidemment, à sa suite, se sont poursuivies en cour d'assises, année après année. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Le nombre de condamnations, elles, n'ont pas encore bougé. Vous avez le sentiment qu'on avance, là, qu'on est depuis MeToo, depuis 3 ans, dans une période où les choses bougent enfin ?
Oui, incontestablement, le mouvement MeToo est quelque chose d'extrêmement important. comme je le disais tout à l'heure, nous sommes concernés, nous, personnes de sexe masculin, et je pense qu'on devrait y être beaucoup plus associés, hein, sous des formes à organiser par les personnes de sexe masculin. Mais le mouvement MeToo est un immense mouvement avec ses dérapages, ses dérives, peu importe. Mais aujourd'hui, quand même, on vient libérer la parole des victimes et leur permettre d'aller devant les juges, parce que c'est extrêmement important d'obtenir effectivement un jugement qui vient dire au nom de la loi, au nom de la République française, vous êtes coupable de... C'est une forme de réparation, et je veux juste terminer là-dessus, c'est une forme de réparation qui permet la reconstruction de la victime.
Mais avez-vous le sentiment que la justice, en tout cas la justice française, est prête à ça aujourd'hui? Est-ce qu'elle est prête à entendre, alors que, encore une fois, les condamnations aux assises sont dérisoires, c'est 1 à 2% des viols. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle aussi est prête à bouger en tant qu'institution?
Je pense qu'il y a l'arrivée d'abord de plus en plus de magistrats au niveau donc féminin. C'est important quand même, parce que...
Donc ça veut dire qu'il y a des biais. Ça veut dire que quand on est magistrat, ça veut dire que quand on est avocat, on est aussi un homme ou une femme, et que donc on...
Oui, moi j'ai constaté que, et c'est pas toujours le cas, mais j'ai constaté qu'un certain nombre de femmes étaient beaucoup plus sensibles à ce genre d'affaires. De toute façon, si on veut donner une traduction à ce mouvement MeToo au niveau judiciaire, il est très important que nous ayons enfin... un système judiciaire avec un nombre de magistrats suffisant pour traiter les affaires. Il faut savoir que ce n'est pas le cas aujourd'hui, et en conséquence que les magistrats sont débordés, et que dès lors, il faut attendre 7-8 ans, comme dans l'affaire Torjman, ou dans l'affaire Azout. Donc s'il n'y a pas un effort sérieux au niveau des magistrats, de leur formation et du nombre, je pense que le mouvement MeToo, qui avance de toute façon, avancera plus difficilement.
Il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble. On va en profiter tous ensemble à la technique. Ce soir, Claire Levasseur à la réalisation, David Leprince, Camille Poukjalagdi est notre attachée de production, Djoubaka, évidemment, au platine, comme tous les vendredis. Alors écoutez-moi ça. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe. If I give you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lie straight face while I cry, still I look to find a reason to believe.
Vagabond Reason to Believe, vous êtes sur France Inter et oui, il y a des raisons de croire qu'un jour et peut-être même bientôt, on pourra pousser les murs et brécher les cadres et laisser couler, laisser filer, réinventer le masculin, le féminin et au fond, un peu qui on est.
Pas son genre. Julia Foyce.
On ouvre notre labo du genre, cet endroit où chaque semaine nos invités viennent déposer ce qui ont fait d'eux les femmes et les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Et pour vous, évidemment, Maître Claude Katz, il s'agit d'une robe, et pas n'importe laquelle. C'est votre robe d'avocat ?
Oui, que je conserve, qui est très importante. Et à ce sujet, je voulais faire le lien entre mon histoire, mes engagements politiques mon parcours professionnel, puisque le hasard a fait que en 2010, ce qu'on a appelé le procès Pinochet en France, donc qui avait été ouvert contre Pinochet et 14 officiers de l'armée chilienne, mais Pinochet est décédé en 2006, s'est tenu à Paris, à la cour d'assises de Paris, et que je plaidais pour la Ligue française des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme, des droits humains, aujourd'hui dit-on, et que j'ai donc revêtu cette robe d'avocat que j'ai troquée contre mon habit de militant auparavant. Mais, je veux dire, ça se situe dans la même ligne, dans le même parcours. Je suis toujours un militant à un certain niveau.
Ça veut dire que l'idée du magistrat et de l'avocat, donc de cette fameuse institution qui serait détachée de toute subjectivité, c'est pas possible ? C'est-à-dire, quand on est avocat, à un moment donné, on a des engagements, on a des convictions ?
Oui, je le pense. En tous les cas, c'est ma façon de concevoir la profession. C'est pour ça que j'y suis rentré. Mais d'autres avocats, remarquables, brillants, n'ont pas de convictions particulières.
Pardon, la naïveté de ma question, mais c'est fou, effectivement, de les voir défendre le rouge et puis le bleu, quoi, en gros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des... Alors, j'en inviterai certainement à ce micro pour me le raconter eux-mêmes, mais vous qui les côtoyez, ces avocats-là, est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne savent plus vraiment où ils sont, ni ce qu'ils pensent, et que ce qui compte, ce n'est pas ça, ce qui compte, c'est de gagner le procès ?
Oui, mais c'est très varié. C'est très varié. Mais je voudrais juste, moi, citer une très belle phrase de Mireille Delmas-Marty, qui a dicté mes engagements.
Qui est Mireille
Delmas-Marty est professeure au Collège de France de droit international public. Et elle vient dire que l'humaine dignité est une dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine, parlant de l'irréductible humain. Donc, c'est cette humaine dignité, moi, qui a sous-tendu effectivement mes engagements. Mais il y a, pour beaucoup d'avocats, un engagement de ce type également. D'autres, non. Par contre, ma démarche, c'est cette dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine que je voulais donc soutenir dans mes engagements.
Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Maître Katz, le générique de fin a sonné. C'est l'heure de se dire au revoir. Vous allez reprendre le volant de votre voiture. Filez chez vous en Normandie, vous remettre à écrire un livre sur les génocides politiques, nous disiez-vous. Alors, bonne écriture. Et merci surtout d'avoir partagé cette heure avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Passons genre, c'est aussi en podcast sur franceinter.fr. Vous le savez, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end.